savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret, Sophie Torlotta.
Bonjour et bienvenue dans tous les cinémas du monde. Bonjour Sophie.
Bonjour à toutes et à tous.
À l'affiche de notre émission aujourd'hui, un doc exceptionnel, Adolescente de Sébastien Lifshitz, le parcours de deux ados qu'il a suivi pendant plusieurs années. Isabelle Huppert, impératrice du cannabis, c'est la daronne de Jean-Paul Salomé. On en parlera avec vous Sophie dans une trentaine de minutes. Mais tout de suite, notre invité, l'auteur d'une comédie, Antoinette dans les Cévennes, qui nous a fait chavirer et prendre un bon bol d'air en montagne. Bonjour Caroline Vignal.
Bonjour.
Antoinette dans les Cévennes, ou l'Odyssée d'Antoinette, institutrice très amoureuse de son amant, mais qui se fait plaquer à la veille des vacances lorsque celui-ci lui annonce qu'il part pour une semaine avec femme et enfant pour une randonnée culturo-bucolique sur les traces de Stevenson. Ni une ni deux, Antoinette va enfiler son short et ses godillots de marche pour le rejoindre. Antoinette, c'est Laure Calamy, l'assistante de direction Fofolle de 10%, hein, la série télévisée, à qui vous donnez son premier grand rôle. Caroline Vignal, qu'est-ce qui vous a fait tout de suite penser que Antoinette c'était elle ?
Bah, en fait, je l'avais découverte dans d'autres rôles aussi que dans 10%, mais c'est vrai que c'est dans 10% que j'ai remarqué, disons, l'étendue de son registre. Je la trouvais extrêmement drôle. Et pas seulement. Enfin, je trouve que elle surprend tout le temps, qu'elle est tout le temps sur la brèche. Et c'est ça que j'aime particulièrement chez Laure Calamy. Et après, en fait, vraiment, au fil du tournage, et encore maintenant, là, pendant ce qu'on est en train de vivre depuis quelques semaines, en montrant le film, et du coup, en passant beaucoup de temps ensemble, je la découvre de plus en plus et je trouve qu'elle est il y a tellement de choses, elle est passionnante quoi, à regarder, à écouter, à filmer. Voilà, elle est très très drôle et elle est tout le temps surprenante.
Caroline Vignal, nous vous proposons de vous livrer à l'analyse séquence par séquence des 15 premières minutes de votre film Antoinette dans les Cévennes, première bobine, c'est parti.
35, 36, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31.
Extérieur jour, voilà, c'est la première séquence du film, c'est une classe, les visages des élèves sont collés sur leur pupitre.
Pas tout à fait, en fait le début du décompte se passe sur les premiers cartons et c'est assez long. En fait, à l'image, je crois que quand il commence à compter, on est à peu près à 20. Et en fait, on s'est longtemps posé la question de... Est-ce qu'on osait faire commencer le décompte à 40? On avait peur que ça soit un suspense vraiment très long.
2, 1, 0.
En fait, on rentre dans la salle de classe où effectivement il y a des élèves qui sont la tête dans leurs bras. On ne sait pas pourquoi ils sont comme ça. Ils font ce décompte et au bout d'un certain nombre de plans, on a le contre-champ sur ce qui les oblige à se cacher comme ça. C'est qu'en fait, il y a une femme qui est leur institutrice, qui est en train de se changer au fond de la classe et qui est de dos en culotte, en train d'enfiler sa robe, qui est une robe en lamé plissé, une robe...
C'est une robe de sirène.
C'est vraiment une robe de
ça
sirène.
Ça détonne complètement dans cette salle de classe.
Complètement, ouais, complètement.
Bon, ça va, c'est pas trop ?
Ben non !
Non.
Et elle demande, donc l'institutrice Laure Calamy, elle demande c'est pas trop.
Non,
et les élèves, il y en a un, il y a un plan sur un petit garçon qui a l'air admiratif.
Ouais.
Qui dit non.
Ouais, mais ils se retournent tous d'abord en faisant waouh, ils sont complètement éblouis.
Voilà.
Vous êtes trop belle.
Trop belle.
C'est vous qui êtes trop beau, vous êtes magnifique.
Et oui, c'est son premier public en fait, cette salle de classe. Comme je pense pour beaucoup de, enfin, pour ceux qui aiment ça en tout cas, parmi les profs et les instituteurs, les enfants sont un public. Donc elle est leur star un peu à ce moment-là.
Alors, va sortir de la salle de classe, donc à la suite d'Antoinette et de ses élèves, extérieur jour. On comprend que c'est la fête de fin d'année de l'école, et là il y a un contre-champ sur les parents d'élèves qui attendent le spectacle.
La chanson d'Antoinette que nous commençons à entendre et que peut-être certains reconnaissent déjà.
Alors c'est quoi cette chanson ?
Eh ben c'est Amoureuse de Véronique Sanson, qui est un peu l'hymne de l'amour extra-conjugal.
Mais je sais qu'on nous l'interdit.
Et qu'Antoinette a fait apprendre à ses élèves.
C'est complètement décalé pour une fête de l'école.
Voilà. C'est un peu l'idée. Et les élèves miment les paroles en même temps qu'ils chantent, ce qui m'a beaucoup amusée. On a trouvé les gestes avec les enfants qui jouaient dans le film pour mimer. Et j'aimais beaucoup ce contraste entre la naïveté des élèves qui chantent cette chanson de tout cœur et puis ce qu'elle raconte, quoi. Et en fait, il y a très vite un contre-champ sur le public des parents qui est quand même assez vite
choqué.
Plus que décontenancé. Oui, enfin, voilà, qui hallucine complètement.
Alors ce chant contre chant, moi, c'est vrai que je trouve assez cruel, parce qu'effectivement on voit les parents qui sont surpris, étonnés, choqués, on le voit, ça se lit sur leur visage, et puis les enfants qui sont vraiment tout à la pure joie de chanter, et c'est très beau parce que ça donne déjà un indice sur le caractère d'Antoinette.
Si cet amour aura un lendemain, quand je suis loin,
et surtout que là, ça y est, elle chante.
Elle est habitée par la chanson.
Elle est complètement habitée. Et il y avait un truc qui comptait beaucoup pour moi, c'est qu'elle est, c'est la seule à avoir un micro. Évidemment, les enfants chantent a cappella. Et elle a un micro. Et elle est super sonorisée. Et elle chante comme si elle était à l'Olympia. Elle est à fond. Elle est à fond.
Mais alors, c'est un message qu'elle envoie.
Et elle regarde son amant, qui fait partie des parents, qui est là, qui est en face d'elle et qui la regarde. Et une espèce de gêne chez lui et chez elle, une déclaration d'amour en public, quoi.
La chanson se termine. Donc il y a un moment effectivement de flottement chez les parents. Et puis un homme en chemise bleue, un barbu, commence à applaudir. On l'a déjà vu plusieurs fois, effectivement, c'est Vladimir, l'amant d'Antoinette.
C'est Benjamin Laverne. Donc, les spectateurs qui le connaissent en tant qu'acteur se doutent, en le voyant, que ça va être un personnage du film. Et lui lance les applaudissements. Et là, on est dans la salle de classe.
Complètement folle.
T'as vu les mômes, ils ont assuré.
Où Antoinette est allée attendre son amant, qui l'a rejoint. Donc la salle de classe est vide. On suppose que pendant ce temps, la fête de fin d'année continue dans la cour de récréation. En tout cas, c'est ce que moi, je suppose. Et ils se sont rejoints dans cette salle de classe.
C'est une scène classique de vaudeville.
Ouais, assez classique, qui était pas pour moi le truc le plus j'avais un peu peur de cette scène, et même au montage en fait c'était pas la scène que je préférais, parce qu'en fait c'est une scène assez statique où ils se parlent beaucoup, mais il y a ça que j'aime beaucoup là, c'est qu'à un moment elle se met à renifler comme ça dans la salle de classe parce qu'elle sent quelque chose, elle sent les vacances, et en fait ils ont prévu de passer une semaine ensemble. Au tout début des vacances, c'est un couple illégitime, donc ils se voient toujours entre deux portes, voilà. Et normalement, elle va avoir son amant pour elle toute seule pendant une semaine.
Les vacances dans 3 jours. Et j'ai pensé, on pourrait aller au Grand Palais. Je réserve.
Et en fait, ça ne va pas se passer comme ça.
Non.
Car il lui apprend que finalement, il part avec sa femme et ses enfants. D'ailleurs, elle est tellement surprise qu'au début, elle ne comprend pas.
Non. Elle comprend pas, elle est... elle croit quand il lui dit on part tous les trois.
Antoinette, je suis pas là la semaine prochaine. On part tous les trois dans les Cévennes.
Elle croit qu'elle fait partie des trois. Mais non, en fait, c'est tous les trois, la famille.
Je voulais te le dire, elle va pas à l'île de Ré, elle nous a fait la surprise avant-hier.
Tu plaisantes ? Mais dis-lui que tu peux pas.
Mais j'ai essayé,
Mais c'est vrai, tu travailles.
Puisque c'est vraiment ce truc que j'ai essayé aussi de mettre en scène à d'autres moments dans le film, de quelqu'un de seul face à une famille, qui est quelque chose qui, moi, me touche beaucoup en général dans la vie. Enfin, je trouve que les familles sont des entités qui peuvent être perçues comme assez agressive en fait quand on est seul. Enfin, des endroits où on peut pas rentrer, qui sont qui ont l'air autosuffisants. Et voilà, ça me touche beaucoup de mettre une personne seule face à une famille. C'était ça aussi.
Ce qui est beau aussi dans la scène, c'est qu'on voit au fond les paroles de la chanson qu'elle a écrite sur le tableau.
Ouais, c'est vrai.
C'est un
joli petit détail. Ouais, vous l'avez remarqué, mais c'est ouais, il faut le voir.
Alors ensuite, le générique apparaît. Antoinette dans les Cévennes, avec une police qui rappelle un peu le style Baba Cool.
En tout cas, qui est très arrondie et oui, qui est un peu années 70. En fait, quand on a travaillé avec la personne qui s'est occupée de ça, du générique, on avait comme référence, on est beaucoup parti de la musique, qui n'était pas encore la vraie musique du film, parce qu'en fait, dans les versions de montage avant qu'on travaille avec le compositeur, j'avais utilisé un mambo pour cette séquence de générique, et un mambo qui est extrêmement drôle. Et en fait, la personne qui s'est occupée du générique, je lui avais donné comme référence un peu le cinéma des années 70, le cinéma français, les comédies, et je lui avais
avec
dit
Marie
mais
Jobert.
Amuse-toi par exemple. Et je lui avais dit amuse-toi quoi. Et en fait, il a fait rentrer, au-delà du fait que la typo effectivement est très arrondie, et en fait, il a fait rentrer les titres de manière différente tout le temps, les titres tombent, rentrent par la droite, par la gauche, enfin voilà, ce genre de truc qu'on voyait pas mal à un moment où il y avait cette espèce de créativité naïve qu'on a un peu perdu, je trouve.
Cet art du générique.
Ouais.
Qu'on a perdu en même temps que l'art de l'affiche, hein, d'ailleurs. Et il y a cette musique du film, est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que là, elle est magnifique, elle est pétillante, elle est sautillante, elle est à l'image d'Antoinette. Et elle va de plus en plus se rapprocher d'une sorte de western, de musique de western.
Ouais, mais en fait, dans le film, il y avait un peu deux directions pour la musique. Une qui était des scènes de franche comédie, et en l'occurrence, le générique de début. Un peu pour embarquer le spectateur, en fait, on s'est dit, il faut que les gens se sentent dans une comédie. Mais après, le film dérive un peu vers autre chose, en tout cas à certains moments, même si la comédie est toujours présente. Et le film devient aussi un peu un western, d'une certaine manière, parce qu'on a des paysages, les paysages cévenols qui sont des très grands espaces, du ciel, voilà, des endroits où il y a personne, enfin, et ça m'évoquait moi le western, et du coup avec le compositeur on a cherché quelque chose qui soit pas, comment dire, non plus complètement du cliché par rapport au western, mais voilà, on avait deux pistes, donc cette piste musicale où on s'était basé sur ce mambo que j'avais proposé au départ. Et un peu sur la musique de Vladimir Cosma. Et il se trouve que mon compositeur, qui est un jeune compositeur, est d'origine roumaine. Et il a très bien compris la référence Vladimir Cosma. Et puis donc, une piste plus guitare, à laquelle après il a rajouté des choses, mais pour les scènes plus atmosphériques, disons, ou en tout cas plus graves, voilà.
Votre nom ?
Antoinette Lapouge.
Lapouge. Ah, Lapouge. C'est vous qui avez appelé hier, hein ? Mais non, ça n'a pas été simple. Hein.
La prochaine fois, il faudra décider plus tôt.
Antoinette, elle a sauté dans le bus municipal, pris la route des Cévennes. On va la voir beaucoup courir. Il y a un petit côté aussi cartoon. Je sais pas si c'est comme ça que vous l'avez aussi dessiné, ce personnage, ou si c'est aussi l'interprétation de Laure Calamy.
En tout cas, sur le moment où elle arrive au gîte.
Sacerdès, d'accord. Jour 1, Sacerdès, les Blémards. 20 km. 2, les Blémards. Les ponts de Montvert.
Toute la partie où elle descend jusqu'au gîte, où en fait elle arrive, croit-elle, là où est son amant. Donc elle est à la fois surexcitée et à la fois un peu inquiète parce qu'elle a peur d'être découverte avec sa femme. Enfin voilà, elle a peur de ce qui va arriver. Et vraiment, c'était l'idée de... Puis elle est en short. Très court et en chaussures compensées, parce que tout à l'heure vous avez dit des godillots, mais en fait au début du film elle a encore ses chaussures compensées parce qu'elle est un peu pépette comme ça, avec une énorme valise rose.
Tout est rose un peu.
Elle est très rose.
Est-ce que vous pouvez nous décrire cette scène où en fait on voit tout de suite, hein, parce qu'il y a d'autres randonneurs autour d'elle, qu'elle est complètement décalée.
Ouais, bah, j'avais un peu comme référence un film qui est pas, enfin, que certains considèrent pas comme un grand film de cinéma, que moi j'adore, qui est La Revanche d'une Blonde, dans laquelle c'est Reese Witherspoon qui est une bimbo qui a l'air complètement écervelée, toujours en rose avec un chihuahua, et qui va faire Harvard. Et en fait, qui se retrouve à Harvard parmi des BCBG intellectuels et tout, et ça m'amuse beaucoup ce contraste. Et en fait, j'avais un peu ça en tête de cette fille qui arrive telle une petite Betty Boop avec sa valise pour retrouver son amant, donc un peu bichonnée avec maquillée, coiffée et tout, au milieu de gens qui sont tous en polaire et en pantacourt. Ça m'amusait beaucoup, quoi. Et
effectivement, hein, tout de suite, on comprend que ça va pas être facile pour elle, hein. Déjà, quand elle était dans le car qui la conduisait au gîte, on voit un petit peu de pluie. On se dit, ça va pas être de tout repos. Ouais. Là, elle arrive au gîte et Lucia Sanchez la reçoit. C'est la, enfin, je dis le nom de la comédienne, c'est la gérante du gîte. Et elle est pas du tout commode.
Votre nom ?
Antoinette Lapouge.
Lapouge. Ah, Lapouge. C'est vous qui avez appelé hier, hein ? Mais non, ça n'a pas été simple, hein ?
La prochaine fois, il faudra décider plus tôt, madame Lapouge.
Enfin, ouais. Je suis arrivée, tout est réservé. Venez, je vous explique. 6 jours de démarche, on est d'accord ?
Oui, c'est ça.
Non, elle n'est pas très sympa. D'ailleurs, ça a été un combat avec Lucia Sanchez qui avait beaucoup de mal à être antipathique. Mais ah, comme non, elle a un accent espagnol très fort, ça moi, ce que je trouvais drôle, c'est qu'elle, je voulais qu'elle, et elle parle dans la vie très vite. Et je voulais qu'elle parle très vite et qu'elle explique très vite à Antoinette tout ce qu'elle a à faire et son itinéraire et tout ça, et qu'on n'y comprenne pas grand chose.
Et l'âne.
Voilà, c'est ça. Et puis elle décrit, elle dit sur la carte, elle dit telle étape, ça va être 23 km, et elle cite les noms des villages et tout, et Antoinette n'y capte absolument rien. Et voilà, c'était ça qui m'amusait.
6, Saint-Étienne-Ballet-Française, Saint-Jean-des-Gardes, 19 km. J'ai essayé d'équilibrer, mais bon. Les lits sont réservés, les dîners aussi. Et pour les midis, c'est à vous de voir. Vous connaissez les systèmes ?
Pas vraiment.
C'est pas compliqué. Si vous voulez un panier repas, vous réservez la veille. Et le reste, tout est réglé d'avance. 870 euros. Je prends pas la carte.
Ah oui. 870 euros.
Mais oui, c'est qu'il y avait des téléphones. 6 jours de marche, 870 euros.
C'est l'entretien, l'âne, ça revient cher.
Ah bah oui.
Ça a tout de suite été la douche froide, et moi j'aime bien le regard torve du gérant,
qui est Maxence Tuel, qui est un...
Et à trois reprises, hein, vous revenez.
C'est peut-être un peu insistant. Mais en même temps, c'est l'idée que justement, une femme seule, un peu sexy, qui arrive dans un endroit comme ça, elle passe pas inaperçue, quoi.
Ouais, et même quand elle arrive dans le dortoir du gîte, il y a déjà quelqu'un qui dort sur un lit.
Ouais.
C'est Monsieur Fraise.
C'est Monsieur Fraise,
qu'on connaît des films de Quentin Dupieux. Et on a presque l'impression de sentir l'odeur du dortoir.
Ah oui, arriver dans un dortoir, c'est toujours un peu un choc.
Ça va, vous êtes bien installé ? Allez, à table ! C'est fin !
C'est pas vu.
Ah, la retardataire ! Mademoiselle a téléphoné hier pour réserver.
Bonsoir.
Bonsoir. Dites en passant, l'âne, t'as du bol qui nous en reste. Hein.
Oui.
Vous marchez avec un âne ?
Bah oui. Pourquoi ? Pas vous ?
Non.
Il va y avoir la scène du dîner. Alors cette scène du dîner, évidemment, fondatrice presque hein, pour la suite du film. Là, elle détonne aussi par rapport à tous les randonneurs. C'est la dernière. Elle arrive vraiment en dernier. Ils sont tous installés. Il y a un couple marié, très drôle, en chemise à carreaux, monsieur avec des plus gros carreaux que madame, qui effectivement voit mal l'arrivée, surtout quand Antoinette pressée de questions sur la raison de cette randonnée avec âne, puisque c'est la seule de l'assemblée qui fait la randonnée avec un âne et qui va progressivement expliquer qu'elle retrouve son amant. Là, on comprend ce que vous disiez, hein, une femme célibataire face à cette communauté et un groupe et un couple marié.
Oui, plusieurs couples en fait. Il y a effectivement ce couple marié mimétique qui sont habillés pareil et qui où la femme est tout de suite hostile. Donc on imagine ce qu'on veut, mais on peut supposer qu'elle a eu elle-même des déboires avec son mari parce qu'à un moment elle le rabroue quand même assez vertement. Et puis il y a un autre couple beaucoup plus pacifique qui sont joués par Marie Rivière et François Caron, qui Marie Rivière en fait lui pose plein de questions et donc finit par lui faire raconter tout. Mais en même temps, c'est elle qui l'encourage à continuer envers et contre tout, même si son amant n'est pas là. Elle est persuadée qu'elle le retrouvera. Enfin, elle croit, elle aime, elle dit j'aime les histoires. Et c'est un peu comme une sorte de première spectatrice de ce qui va arriver à Antoinette.
J'ai dit il. C'est bien il. Hein ? C'est un monsieur ?
Oui, oui. C'est un monsieur.
C'est votre amoureux ? Je suis désolée, c'est l'habitude, vous savez. Ces tables d'hôtes, c'est très convivial. Hein, on est tout de suite à tu et à toi.
Oui, c'est vrai.
C'est qu'une bonne habitude de dîner toujours.
Eh bien, oui, c'est mon amoureux.
Et il y a Marc Fraise, qui est lui aussi un personnage seul, le seul à part Antoinette, qui la regarde beaucoup, mais qui ne parle pas.
Mais qui va la reluquer plus tard dans le film, elle le remettra à sa place. Moi, je voudrais qu'on revienne sur Marie Rivière, parce que effectivement, c'est un personnage intéressant. Elle est à la fois très intrusive et en même temps bienveillante. Et on en reparlera tout à l'heure. C'est un peu grâce à elle ou à cause d'elle que Antoinette se met tout de suite à nu.
Oui.
Et dans le même temps, bon, Marie Rivière, bien sûr, c'est l'héroïne du rayon vert de Romère.
Oui.
Bah
oui,
donc elle charrie tout un imaginaire de cinéma et de femme seule avec elle.
C'est ça. Bah oui, c'est pour ça que le rayon vert, c'est vraiment un de mes films préférés. Enfin, c'est même le film qui m'a donné envie de faire du cinéma. Et j'avais, quand je me suis dit que je pouvais proposer un rôle à Marie Rivière, et en l'occurrence celui-là, qui est un peu comme la marraine en fait d'Antoinette dans le film. Je lui ai écrit une lettre enflammée et elle a accepté le rôle et j'étais très heureuse qu'elle soit présente et qu'elle oui, c'est vraiment comme un passage de relais. Après je me compare pas du tout à Romère et je compare pas le film au rayon vert, mais c'est vrai que le personnage de Delphine dans le rayon vert, c'est un personnage de femme seule, plantée aussi au début des vacances d'été, et qui va errer jusqu'à finalement se trouver elle-même. Donc il y a des vraies similitudes entre mon film et ce film-là.
Caroline Vignal, je vous propose qu'on arrête ici la leçon de cinéma. Là, on est vraiment au moment où Antoinette s'apprête à faire la connaissance de Patrick. Qui est Patrick ?
C'est l'âne avec lequel elle va marcher pendant tout le reste du film. Voilà, et avec lequel elle va tisser un lien qui au départ s'annonce pas très bien, mais mais finalement ils vont se trouver, ils vont se rencontrer.
J'imagine que tout le monde vous a posé la question. C'est compliqué de tourner avec un âne.
Bah, en fait, pas si compliqué.
Qu'elle a pas l'animal fétiche des cinéphiles, en même temps réputé pour être assez têtu.
Bah oui, mais c'est triste parce qu'en fait c'est pas si vrai. Les ânes sont pas si têtus en réalité, et surtout il faut savoir les prendre. Et comme on avait une dresseuse qui a une grande habitude des ânes et qui savait comment faire. Je dis pas non plus que c'était tout le temps hyper simple, mais j'ai vraiment pas de souvenirs traumatisants liés à l'âne sur le tournage. Non, on a obtenu tout ce que j'avais imaginé et ça s'est vraiment bien passé.
Et aucun âne n'a été maltraité.
Non, absolument pas. Voilà.
Alors effectivement, le début de cette randonnée est compliqué pour Antoinette, hein, avec Patrick. On lui dit aussi très vite les consignes, faut faire comme ci, comme ça, et elle a du mal à le faire avancer jusqu'à ce qu'elle lui parle à l'oreille. En fait, c'est un peu Antoinette qui parle à l'oreille des ânes.
C'est ça. Elle comprend à un moment que pour qu'il marche, il faut qu'elle lui parle. Et donc, elle cherche des choses à dire, comme quand on va chez un psychanalyste, par exemple.
Et évidemment, elle va parler de Vladimir.
Entre autres.
L'âne lui sert un peu de quoi ? De confesseur ou de psy, quoi ?
Oui, on peut dire ça, Oui, c'est vrai qu'en tout en marchant, elle parle et peut-être qu'elle fait le... Oui, elle digère des trucs, peut-être.
Parce qu'en fait, elle se rend compte, Antoinette, que quand elle parle de son histoire avec Vladimir, l'âne avance. Donc elle va de plus en plus parler et en parlant, digérer.
Ou peut-être comprendre quelque chose. Oui, je sais pas. J'ai pas forcément envie de théoriser beaucoup là-dessus. C'est quand même aussi un peu un effet de comédie. Et puis, c'est une manière assez formidable pour moi de... Parce que Antoinette est quand même presque tout le temps seule avec son âne dans le film. Enfin, il y a des grandes scènes de repas. Il y a des moments où elle est pas toute seule, mais elle est beaucoup seule avec son âne. Et donc, c'est un peu comme un monologue au théâtre. Sauf que j'ai quand même j'aime pas beaucoup les monologues au cinéma. Mais ça me permet de faire des monologues qui sont... pas des vrais monologues, puisqu'elle a quand même un interlocuteur. Il y a un interlocuteur muet, mais qui est un interlocuteur.
Mais qui répond physiquement.
Qui répond parfois physiquement, et qui en tout cas réagit, ouais, et qui a l'air de vraiment l'écouter, en tout cas.
Mais d'où elle vous est venue, Caroline Vignal, cette idée de ce couple infernal? Et surtout, moi, ce qui m'a frappée dans votre film, c'est votre sens aigu de la contemporanéité, c'est-à-dire de ces couples bobos qui partent sur les traces de Stevenson, faire de la marche dans les Cévennes. Je trouve que vous croquez très, très bien les typologies des randonneurs, entre autres.
Alors, d'abord pour la première question, l'idée elle m'est quand même venue, alors pour le coup, de quelque chose qui n'est pas contemporain, qui est le livre de Stevenson, Voyage avec un âne dans les Cévennes.
Donc Stevenson, hein, juste pour rappeler, hein, c'était cet auteur, l'auteur notamment de L'île au trésor.
Et de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et oui, en fait, il a un de ses premiers livres, c'est un récit d'un voyage qu'il a fait vers 1870, si je me trompe pas, où il a marché avec une ânesse. Et il l'a raconté, et en fait, la relation qu'il a tissée avec cette ânesse, ça ressemble vraiment à un schéma de comédie romantique, c'est-à-dire qu'au départ, ils ne s'aiment pas, petit à petit, ils s'apprivoisent, et quand ils doivent se séparer, c'est un déchirement. Et en fait, je trouvais ça, et il le raconte avec beaucoup d'humour, parce qu'il a beaucoup d'humour, Stevenson, en fait. Et voilà, et je trouvais ça hyper drôle, et une base géniale pour raconter une histoire qui se passe aujourd'hui. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question, bah oui, je crois que, c'est un peu, je passe beaucoup de temps à regarder les gens et à les écouter, et je m'ennuie pas beaucoup en général dans la vie, parce qu'il suffit que je prenne le métro pour, j'adore ça en fait, je regarde les gens et finalement je crois, alors la sociologie, le mot est un peu affreux, ça fait un peu peur, mais ça m'intéresse plus de réfléchir aux gens aussi en les plaçant dans une catégorie sociale, enfin. Je m'exprime pas bien, mais enfin, disons que ça m'intéresse. La psychologie m'intéresse moins. En tout cas, la psychologie seule ne m'intéresse pas beaucoup. La psychologie reliée à quelque chose d'un milieu, parce que je pense qu'on est toujours, évidemment, enfin, ça, c'est de la tarte à la crème de le dire, mais on est toujours parti d'un milieu, et tout ça m'intéresse beaucoup, quoi. Donc voilà, j'avais envie. Enfin, c'est même pas que j'avais envie, c'est que ça m'est naturel, en fait.
Et il y a dans Antoinette, vous le disiez, il y a un aspect évidemment comédie, il y a un aspect western, il y a un aspect conte aussi. Il y a un petit côté une nuit un peu féerique, au contraire infernale, enfin dans la forêt, mais il y a tous ces animaux qui viennent. Vous aimez bien comme ça un peu mélanger les influences.
Ouais, bah ouais, j'aime beaucoup les contes, et en fait, c'est marrant parce que comment les idées viennent, c'est quand même un mystère, et en fait, en l'occurrence, cette idée de ce réveil qui est un peu Blanche-Neige, même complètement Blanche-Neige, parce qu'on avait revu la séquence du film de Disney avec mon chef opérateur, on a essayé de la reproduire avec des animaux réels, ce qui n'était pas si simple, mais oui, en fait, parfois, j'ai des idées, et je me dis ça serait trop bien, mais c'est pas un truc très intellectualisé, c'est juste que j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de le voir en tant que spectatrice, et puis parfois ça marche, quoi, on y arrive, et puis finalement oui, moi j'adore cette séquence qui nous a quand même pris une journée entière à tourner pour que les animaux veuillent bien aller là où on voulait qu'ils aillent. mais voilà.
Merci beaucoup Caroline Vignal.
Merci à vous.
Et puis on incite vivement tous les auditeurs de RFI qui ont la chance de vivre à Paris ou en France, d'aller voir
votre film. En France, parce que le film est sorti partout en France.
C'est la comédie de la rentrée. Est-ce qu'il y a des dates de sortie dans d'autres pays bientôt ?
Alors dans d'autres pays, je sais qu'il est déjà sorti en Belgique, il va sortir en Suisse, et je crois qu'il va sortir dans d'autres pays, mais je ne suis pas très au courant pour l'instant, mais ça va venir. Mais ouais.
Merci beaucoup.
Les cinémas du monde sur RFI.
Cried in the top, the security check. Put your toothpaste and my shoes in a separate box. Talking.
looking from heaven to hell. Nothing, nothing, nothing sticks. 21st century sick.
Security Check, donc extrait du nouvel album de Sophie Hunger. Les autres films en salle cette semaine, un traité d'inconstance amoureuse, hein, comme toujours avec Emmanuel Mouret, c'est les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. La folle histoire des Maravillas des Mali, racontée dans le doc Africa Mia, on en a parlé avec vous Sophie, voici deux semaines. Le combat d'une apicultrice de Macédoine, c'est un documentaire très couru apparemment, très aimé par les festivals Honeyland. Et Sophie, vous, vous aviez envie de revenir sur un autre documentaire qui a fait l'événement, on peut dire ça, en France. C'est la sortie du nouveau documentaire, donc de Sébastien Lifshitz, Adolescente.
Oui, alors Sébastien Lifshitz, hein, il l'a prouvé en filmant des homosexuels d'une génération d'avant le sida et la libéralisation de l'homosexualité dans Les Invisibles, ou bien une femme transsexuelle dans Bambi. Lui, il s'intéresse aux personnes qui se réinventent ou qui se métamorphosent. Son nouveau projet Adolescente va peut-être encore plus loin, hein. Il lui a pris 5 ans. Il a suivi deux jeunes filles de leurs 13 à leurs 18 ans, montrant leur relation avec les parents, les professeurs, les petits amis. Il filme les premières fois, les moments décisifs comme les instants d'ennui.
Vous êtes en quatrième ? Les profs, on n'est personne pour vous dire si vous allez réussir votre vie ou pas. Moi, j'en sais rien ce que vous allez être dans 10 ans.
Je crois qu'à partir de maintenant, je vais commencer une liste de ce que je veux réaliser. Mais moi, j'aime... Putain, mais moi, c'est des rêves fous, moi, que j'ai.
J'ai juste peur de ne pas réussir ce que j'entreprends.
Je sais pas, c'est parce qu'on n'a pas tous un talent.
Et là, t'as envie de pleurer. Quand tu vois ta note, t'as envie de pleurer. C'est un mec, quand je suis stressée, j'arrive plus à rien. Donc si tu veux faire ça et que j'ai zéro à cause de toi, ça va aller.
Moi, oh, franchement, c'est la pire année de ma vie.
Alors, j'ai pu rencontrer Sébastien Lifshitz et je lui ai demandé comment il en était arrivé à filmer Emma et Anaïs, donc ces deux copines de Brive que tout semble opposer.
Le projet, c'était vraiment de faire un film sur 5 ans. Sur un adolescent, plutôt un garçon, parce que je m'étais dit qu'étant moi-même un garçon, que ça serait plus simple de filmer l'intimité. En fait, j'ai été contredit par les proviseurs de Brive-la-Gaillarde qui m'ont fait remarquer qu'à cet âge-là, les filles étaient beaucoup plus intéressantes. Eux avaient remarqué, particulièrement sur cette génération, que les filles étaient beaucoup plus affirmées, beaucoup plus soucieuses de l'égalité des droits, qu'elles étaient différentes, en fait. Donc du coup, j'ai suivi leurs conseils. Il y a 75% de filles qui sont venues, 25% de garçons. Et Emma et Anaïs sont arrivées séparément, chacune avec leurs parents. Parce que le casting, c'était aussi rencontrer les parents, puisque le film allait filmer les ados, mais aussi toute la famille. Donc j'avais besoin quand même de me faire une idée de à quoi ressemblaient les parents. Et ce qui était difficile, c'est qu'elles étaient tellement différentes l'une de l'autre. Il n'y a pas plus opposé sur une ligne que Emma et Anaïs, que j'arrivais pas à les départager, en fait.
Mais donc vous avez choisi la ville avant de choisir Emma et Anaïs ?
J'ai fait un casting de ville parce que je voulais... Une chose était sûre, c'est que je voulais pas aller en banlieue. L'adolescence a été beaucoup racontée, filmée à travers la banlieue. Et je voulais choisir un territoire plus neutre, différent. Une espèce de petite ville, une petite préfecture de 50 000 habitants. Et Brive est apparue comme une ville idéale pour ça. En plus, la nature y est très présente tout autour, ce qui marque le passage du temps, parce que les saisons, du coup, sont très visibles à l'image. Donc, toutes ces raisons ont fait que, voilà, j'ai choisi Brive. Et puis, c'est quand même là où vit cette France profonde. C'est là où vit 75% de la population, quand même. Donc, et elle est peu filmée.
Emma et Anaïs, vous le disiez, elles sont très, effectivement, très différentes. Enfin, bon, physiquement, de milieu social.
Bah, c'est une amitié étrange parce qu'on se demande qu'est-ce qui les lie en fait. Elles n'aiment pas la même musique, elles n'aiment pas les mêmes fringues. Il y en a une qui parle tout le temps, l'autre qui dit pas un mot. Il y en a une qui vient d'un milieu prolétaire, l'autre d'une sorte de moyenne bourgeoisie, et que les pressions, je dirais, face à la réussite scolaire, à l'ambition, et là aussi totalement différente. Emma est quand même pressurisée pour maintenir un niveau, réussir, alors que dans la famille d'Anaïs, le fait même d'avoir le brevet des collèges est une chose absolument, est un miracle, quoi. Et donc le parcours qu'accomplit Anaïs est presque une sorte d'exploit. Elle est le petit miracle de la famille, sur lequel le sort s'acharne quand même pendant toute la durée de ses 5 ans. Mais Anaïs a une sorte de force de vie, de résilience absolument incroyable, qui fait qu'elle rebondit toujours.
Du coup, donc vous tournez sur 5 ans, mais comment vous organisez, comment vous choisissez? Parce qu'en plus, c'est un documentaire, donc vous loupez plein de trucs, bon, vous en captez d'autres, mais...
Quand vous faites un documentaire sur une aussi longue durée, vous savez qu'à l'avance, vous allez louper des choses. C'est impossible de filmer 365 jours sur 365. Donc l'idée, c'était d'y aller une fois par mois, à peu près, pendant 2-3 jours. Et il y avait des journées qui étaient comme un peu imposées, où il y avait des événements, un anniversaire, un contrôle scolaire, des résultats. Il y avait les événements qu'on ne pouvait pas prévoir, les événements de la vie, les événements de la société, et là où il fallait pouvoir débarquer tout de suite. Et puis il y avait ces journées en creux, qui sont en fait l'essentiel du temps, parce qu'une vie d'ado, c'est une vie répétitive, c'est une vie où on attend, c'est une vie où on s'ennuie souvent. Et moi, c'était des journées qui m'intéressaient beaucoup, évidemment, parce que c'est là où on peut aussi observer ce que c'est que le quotidien d'un adolescent. Donc c'était vraiment ça, le tournage. Il y avait une sorte de multitude de différents moments avec des rythmes et des intensités différentes, en fait, mais qui, quand même, incarnaient à chaque fois quelque chose d'un état d'adolescence, quoi.
Dans cette période si douloureuse pour notre pays, la France est forte, elle se lève toujours.
Disons que ça ne te laisse aucune alternative.
Mais puisque c'est ce que je veux faire, putain, on s'en fout.
Tu vas partir à Paris, moi je vais partir sur Limoges.
On parlait évidemment des événements extérieurs. En 2014-2015, bon, les attentats, il y a les attentats, Charlie Hebdo, les Bataclan. Donc c'est aussi un moment de l'histoire de France paroxystique que vous captez.
Il y avait cette idée qu'à travers, en fait, le portrait d'Emma et d'Anaïs, on allait filmer aussi 5 années de la vie française et des événements qui pourraient se produire pendant ces 5 années. Par exemple, j'avais déjà anticipé le fait que l'élection présidentielle allait se trouver pendant ces 5 années et qu'elle serait forcément un moment intéressant pour voir quel rapport elle pouvait avoir aux politiques, à cette question de la présidentielle. Est-ce que ça les concerne ou non? Est-ce que les candidats même les intéressent ou non? Donc ça, c'était des choses que je savais être dans le film. Mais les attentats, par exemple, c'est évidemment quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir et qui ont été à un moment très fort, parce qu'il n'y a pas eu un attentat, il y en a eu une multitude. Et c'est vraiment quelque chose qui a marqué, je pense, leur génération, qui leur a posé beaucoup de questions, qui a généré beaucoup de peur. Et je me souviens, au moment des attentats, on a très peu entendu, on n'a même pas du tout entendu les adolescents sur cette question. La France était traumatisée, on donnait la parole essentiellement aux commentateurs, aux politiques... Mais les ados, on ne les a pas entendus. Et moi, j'étais à une place qui était quand même très privilégiée, où tout d'un coup, je pouvais leur donner la parole et observer ce qu'ils comprenaient ou non, éventuellement ce qu'ils avaient à en dire. Et c'était le cas. En fait, on se rend compte que le monde extérieur les pénètre et ils ont un avis, en fait, sur ce qui se passe dans la société française. Souvent, on dit que les ados sont complètement autocentrés, ils vivent dans leur bulle et le monde extérieur glisse sur eux. Mais c'est pas vrai.
Voilà, hein, Sébastien Lifshitz, l'observateur très sensible de la métamorphose de deux jeunes filles. C'est vraiment le documentaire que je vous conseille chaudement. Il s'intitule « Adolescente ».
Voilà, Isabelle Huppert en princesse saoudienne avec un molosse à ses côtés. Hein, dans un tout autre style. C'était difficile hein, cette semaine de rater l'affiche de La Daronne en salle. Depuis une dizaine de jours, une comédie de Jean-Paul Salomé où la reine du cinéma français se réinvente en impératrice du shit. Rien ne prédispose exposer pourtant le personnage que joue Isabelle Huppert, patience portefeu, rien ne l'a prédisposée. Cette traductrice français-arabe pour la brigade des stupes à prendre le chemin du trafic de cannabis.
Elle est où l'interprète ? L'interprète, bordel !
Vous êtes en garde à vue pour trafic de stupéfiants.
En terrain fiage, bisabab, tijarat al-mohadirat.
J'aime pas cet hôtel, j'aime pas cette chambre.
C'est pas un hôtel ici. C'est un EHPAD et ça me coûte 3 200 € par mois.
À table.
Je prends.
انا واحد السيد ابو ليسيه نعرفها مزيان قالت لي لو كان ما تسمعش الكلامي راك غادي ترشى في الحبس وانا معاك
pourquoi il sort de l'autoroute lui
j'ai le portable ديالك يا ولدي الله يعطيك الستر
ميكا trouve moi ce camion
Khadija il y avait combien dans ce camion
بزاف beaucoup beaucoup
voilà c'est la bande annonce de la daronne donc ça marche c'est vraiment une comédie
en fait on est entre le vous l'aurez entendu d'ailleurs dans la bande annonce hein, on est entre le polar et la comédie On l'entendait dans les dialogues. Alors l'histoire, je disais, le personnage que joue Isabelle Huppert s'appelle Patience. Elle est assez mal prénommée, hein, puisque en fait, le film commence au moment où elle devient vraiment très impatiente de gagner de l'argent, beaucoup d'argent, pour payer la maison de retraite de sa mère. Alors le jour où elle reconnaît, lors d'une écoute, la voix de l'infirmière hein, qui s'occupe de sa maman, elle décide de faire d'une pierre deux coups, sauver l'infirmière et récupérer une partie du précieux chargement pour son compte. Donc vous l'aurez compris, Sophie, le film fait fi de toute vraisemblance. C'est un scénario cousu de grosses ficelles, mais deux choses qui, moi, m'ont marqué. La première, c'est que les dialogues sont vraiment très, très drôles et très, très bien écrits. Et puis, c'est Huppert qui porte le film, qui donne ici la preuve qu'elle peut à peu près tout jouer, et entre autres, ce personnage hors norme qu'on a un vrai plaisir à suivre dans son parcours d'apprenti hors la loi.
Tous les cinémas du monde.
On termine cette émission par notre tour du monde du cinéma. Évidemment, Sophie, vous allez revenir sur deux festivals de la rentrée, la Mostra de Venise et le Festival de Deauville. Deux festivals qui ont pu se tenir physiquement et qui ont couronné des films également appréciés par la critique.
Et à Venise, c'est suffisamment rare pour être souligné, c'est une femme, une réalisatrice qui décroche le Lion d'Or. Il s'agit de Chloé Zhao qui a impressionné le jury présidé par Cate Blanchett avec No Man Land.
No, I'm just going to take a little walk.
Okay.
Be back soon.
Dans Nomadland, Lion d'or de Venise donc, Frances McDormand incarne une femme brisée qui plaque tout pour vivre dans un van, une existence précaire mais pleine du soutien d'une communauté de van dwellers comme elle.
Et à Deauville, Sophie ?
Eh bien, c'est Sean Durkin qui remporte le prix du jury présidé par Vanessa Paradis et celui du jury Révélation dirigé par Rebecca Zlotowski avec The Nest.
Things are dried up here for me.
Oh! Yeah!
There's an opportunity.
Where?
London.
This will be our fourth move in 10 years.
Backwards.
But money's fine, right?
Yeah.
Right?
Yeah. This is a fresh start.
How about this?
You shouldn't be working for someone else. Be your own boss. Build your own place. Own your own horses.
Something doesn't feel right.
Voilà, dans The Nest, Sean Durkin explore la détérioration d'une famille anglo-américaine dirigée d'une main de fer par un Jude Law soucieux de conserver son rang économique et des apparences valorisantes.
Et puis aux États-Unis, un film déclenche une tempête médiatique sur fond d'élections présidentielles.
Il s'agit de Mignonne de Maïmouna Doucouré, diffusée sur Netflix et qui suscite les foudres d'une frange d'ultra-conservateurs.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il se passe quoi là?
Vous faisiez quoi à la guerre?
On va danser au concours.
Je t'en fais une coupe.
Mignonne, cuties en anglais, met en scène l'hypersexualisation des préadolescentes qui pratiquent le twerk, une danse sensuelle et lascive. Alors, vous aviez vu le film Elisabeth, hein, puisqu'il est sorti en France en salle le 19 août dernier, et l'œuvre ne peut être accusée de complaisance.
Non, c'est un film magnifique, Sophie. Le problème, c'est que Netflix a utilisé un visuel très réducteur et séducteur pour communiquer sur le film avec des jeunes pré-ados dans des poses très suggestives.
Alors après coup, hein, la plateforme a eu beau s'excuser, mais l'occasion en fait était trop belle pour la frange complotiste du mouvement pro-Trump à 2 mois de l'élection présidentielle. Cette frange des républicains estime que Netflix est trop proche des Obama, trop démocrate, et du coup elle a lancé un appel au boycott de la plateforme et elle demande l'ouverture d'une enquête.
Voilà, affaire à suivre donc, parce que quelque chose me dit que ça ne va pas s'arrêter là, quelques semaines avant les élections présidentielles. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin.
Et Elisabeth Le Quéré, à la réalisation Fanny Renard.
La semaine prochaine, on recevra le journaliste David Dufresne pour son documentaire, super documentaire sur les Gilets jaunes, un pays qui se tient sage. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même cinéma. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
Rashida and Nancy, hey. See me whining. Hold on, not talking in bottles. Hey, all I like to party. Be Shakira and Beyonce from Miami. Hey, all I like to chill, chilling with Duse and Jesse. Just go down when the music come up. Put it down, I'm like, say we are raving up. Party, 2 for the shawty, 3 when you shake your bum 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 bum. See, me I like to party. Party with the girls like a body. Me I like to party. Party with the boys like a money with it. Go down when the music come up. Go down when the music come up. And go down when the music come up. When the DJ kiss and they get on up. See me wine, see me deep below. See me dance to reggae and calypso. You will enjoy, oh, yeah. I'll just spray your money. Make all the girls them.